c'est la bande originale, soyez les bienvenus.
Bravo.
Avec Leïla Kaddour.
Bonjour.
Agnès Hurstel, Daniel Morin.
Bonjour monsieur. Tom
Villard.
Bonjour.
Tout à l'heure Tanguy Pastureau. Et nos invités Romain Bouringer et Philippe Robot.
Bonjour, bonjour.
Ravi de vous accueillir pour un film fort, un film fort, un film surprenant.
Flore
surprenant pour un amour flou. Comme ça, tout est flou partout. Roman et Philippe, on va tout de suite donner le point de départ. Vous avez été un couple amoureux, vous avez mis au monde, surtout vous Roman, mais ensemble, deux enfants. Bah oui,
c'est dit dans le film.
Ouais. Il a quand même mis la graine. Vous vous êtes séparés et ce film raconte la transition, le passage entre la fin de cette histoire d'amour et une nouvelle idée. Elle est dans la bande-annonce, on peut le dire. C'est-à-dire de vivre séparément mais dans le même appartement, ça devient un
séparatement. Ouais, c'est exactement ça. C'est un séparatement.
Un séparatement. Ceci dit, appartement, mais il y a déjà à part dans appartement.
Nous ne vivons pas dans le même appartement. On a chacun notre appartement.
Hein. Oui, clair, ça. Hein. Oui, avec les enfants.
Clarifie la situation.
C'est important parce que je suis célibataire. Je recherche.
Bien clarifié. Ah, d'accord. On fait la pub aussi. On fait de la promo pour vous, Philippe.
Je suis au 06.
Non. Alors justement.
Pourquoi non?
Avant de commencer.
Pourquoi non?
Parce que non. Avant de commencer, on va voir.
J'entends Daniel Morin. Des fois, il fait ça aussi lui.
Oui.
C'est comme ça que.
Sauf que lui est marié.
Merde, la boulette.
Et alors, je vais en rajouter une couche.
Si sa femme n'écoute pas la radio, c'est ça la bonne nouvelle.
Si, mais une autre. Alors.
Et vous, je croyais que c'était Clémentine Autain, votre unique but dans la vie.
Okay, elle est maquillée, elle aussi.
Très bien. Voici donc des questions concernant Roman et Philippe. On va voir si la bande autour de vous connaissent bien ou pas. Roman Bouringer a plusieurs tatouages, notamment un avec deux lettres sur son avant-bras.
RR.
Exactement.
Oh, j'ai vu le film.
Pour les deux enfants ou pour
Raoul et Rose, pour la famille Rebaud. Ouais.
C'est vrai. Pour Richard. Oui, des R partout.
Bah oui. Ouais.
Ah oui, des R partout. Ouais. Et vous avez tatoué autre chose que les deux lettres de vos enfants?
Tout à fait, regardez, vous n'allez pas en croire vos yeux.
Limoges,
je t'aime.
Limoges, vous avez beaucoup joué. Vous avez fait des résidences à Limoges en théâtre.
Je suis mort de rire. C'est aller au bout de la vanne. Ouais. Moi, je vais me faire tatouer le Havre.
Je trouve ça très, très punk presque. Limoges est ma ville de théâtre. C'est là où j'ai fait beaucoup de théâtre avec Pierre Pradinas. Mmh. Et voilà, j'allais pas tatouer deux masques vénitiens. Hein. Je voulais faire un truc par rapport au théâtre et tout ça, donc ça aurait été un peu ringard.
C'est fou jusqu'où on peut aller dans l'autoconviction.
Attends, elle a le plan de la ville tatoué dans le dos aussi. C'est très particulier.
Moi, j'ai Croix de Chavaux tatoué sur le dos.
Justement, Philippe Rebaud, à quel moment de sa vie prévoit-il de raser sa moustache? Il a dit, je me raserai un jour la moustache de sa fille.
Ouais, les majeurs, quand les fils seront majeurs.
Quand il aura chopé Clémentine Autain.
La retraite.
Je sais même pas moi-même.
Moi, je sais pas.
Jamais.
Vous l'avez dit en Télérama.
Un César.
Un milliard d'entrées en Chine.
Pour les Oscars.
C'est pas une récompense. Non, c'est un changement physique. Il décidera de couper la moustache.
Il n'a plus de cheveux du tout.
Exactement.
Oui, ça c'est vrai.
Le jour où il sera chauve.
Parce que là, on voit pas.
Parce que moi, je trouve ça délicat, la moustache et la calvitie.
Ouais. Ça fait Gérard Jugnot, c'est hyper chic.
Regardez. Mais ça, c'est une barbe, Daniel. C'est pas
non,
pareil.
Non, regardez bien. Entre la bouche et le nez, il y a un truc qui s'appelle moustache. Et au-dessus, enfin, entre les lunettes et le crâne, il y a que de la peau.
Non, il y a les sourcils, mais c'est au-dessus, c'est voilà.
Sourcils moustache.
Au-dessus, c'est une barbe.
Ça, c'est une barbe. Ça n'a rien à voir.
Je suis discret capillairement.
C'est une casquette en peau de fesse.
T'es mi-chauve.
Ah oui, mi-chauve. C'est bien ça, mi-chauve.
Ouais, ça me va mieux.
Qu'a déjà fait Roman Bouringer par amour?
Oh, plein de choses.
Un enfant.
Sortir des choses séparées.
Elle a quitté.
C'était dans son adolescence.
Voyager. Elle a fait une fugue.
Elle était amoureuse d'un mec et elle a voulu faire quelque chose pour se faire remarquer de ce mec.
Mentir. Ah oui.
Elle s'est décolorée les cheveux.
Non.
Elle s'est rasée la moustache.
T'es sûr qu'à poil dans la rue, ça marche?
Nagui, c'est physique ou pas?
C'est pas physique.
C'est pas physique, c'est une activité.
Elle a chanté dans la rue. Elle a chanté.
Il y a la danse, la musique.
Elle a changé de métier.
Elle a fait de la muscu.
Non. En plus, je viens de voir que j'ai mimé la réponse.
Elle a fait de la peinture.
Non.
Elle s'est maquillée.
Non.
T'es vraiment nul en mime alors.
C'est pas bon,
Qu'est-ce qu'elle a fait pour se faire remarquer de son amoureux?
Elle a grimpé.
Elle a fait une pièce de théâtre dans la rue. Elle a déclamé un texte.
Une bande. Et ça n'a pas marché en plus. C'est-à-dire que lui,
il a. Si, si, il a vu.
Ah, il a vu. Ah, il a vu. Ah, d'accord, okay.
Elle a tagué.
Exactement. Oui, bravo. Oh, j'ai tagué la façade de mon immeuble.
Eh ouais.
Ah ouais. Et en écrivant.
Je pense que celui qui a dit peinture autour de la table mérite quand même.
Non. Un tag, c'est pas une peinture. Pardon.
Oh là là, allez, on rentre dans le débat.
Oh là là. Le mépris.
Non,
elle a pas fait du.
Oh, le faux jeune.
Elle a pas fait du Banksy. Vous avez écrit quoi?
J'avais un balcon, j'ai écrit en gros, en noir, sur la façade. Et aujourd'hui, c'était il y a 20 ans, je vois encore la façade un peu repeinte. Je vois des restes de. C'est marrant.
Du tag?
Je vois le blanc par-dessus. J'avais écrit je t'aime, hein, tout simplement. C'était pas non plus. J'allais pas
mais chez vous,
peut-être avec que son le mec prénom.
Non. Juste je t'aime parce que je savais qu'il passait en dessous de mon balcon et qu'il saurait que c'était pour lui. Wow.
Puis voilà, tu peux les repasser maintenant parce qu'il habite peut-être encore dans le coin le mec, tu peux peut-être repasser. Là.
Et pardon, ça a marché. Il l'a vu?
Il l'a vu.
Et vous avez
vu? Il était touché.
Vous avez une histoire ou pas, tous
les
deux?
Oui, tout à fait.
Ah, bah voilà. Donc ça marche. Donc les enfants, faites-le à la maison, taguez sur vos murs.
N'ayez pas peur,
vandalisez vos baraques.
Suivez les murs, allez-y.
Vous direz, c'est France Inter qui nous l'a dit. En cas de guerre, que ferait Philippe Robot?
Dans une cave, on s'installe avec, on boit.
Bah, il tuerait des Allemands comme tout le monde.
Il se suicide, il se tue, non? Il part vivre sur une île dans le sud.
Il s'enfuit comme un lâche.
Ouais. Ah oui, bah oui.
Déserteur.
Ouais, non mais franchement, c'est pas si honteux que ça, en fait. Faut la fuir, la guerre. Non mais c'est vrai, si tous les mecs s'enfuyaient, il y aurait pas de guerre. Voilà, donc je suis de ceux qui pensent ça. Voilà, moi je me tirerais comme un lâche.
Un insoumis.
Oh, parce que je suis un insoumis, non, parce que j'ai la trouille, du coup je me tirerai, je prendrai mes gosses sous le bras et je me tirerai le plus loin possible de l'endroit où ça chauffe.
Moi je laisse mes gosses pour distraire l'ennemi.
C'est ça aussi. J'ai une idée comme ça, non, moi je laisserai le chien peut-être
pour brouiller les pistes.
Quel cours à l'école Romane Boringer préférait-elle?
Le sport?
Non.
Le dessin?
Non.
La peinture? La musique, l'art dramatique?
Le kung fu?
Le dessin?
Français? La littérature? La poésie?
Le théâtre? Le théâtre?
La rédaction, le clown, la dictée.
Non. Ça s'enseigne avec le français, c'est généralement le même.
Le théâtre, la littérature,
la poésie, l'orthographe,
la lecture d'images,
le Krav Maga.
Rosa, le latin. Rosa Pulcris Est.
C'est Tom Villa qui l'a dit.
Rosa Pulcris.
Le latin pour la peinture, il a deux points.
Pourquoi vous aimez le latin?
Non, c'est un peu erroné. J'ai eu une professeure de latin qui racontait à merveille les légendes.
Ouais.
Et ça, non, parce que le reste du latin, pas du tout. Hein. Oh. Pulcris, tout ça, c'était même un peu difficile.
Cusquetandem Catilina, vous verrez pas, tiens, ça.
Mais elle enseignait à merveille les légendes grecques, romaines. Voilà, ça, c'est
donc c'était pas le latin, quoi. En fait.
elle était raconteuse d'histoires.
Voilà, il y avait un jour dans la semaine où on avait un polycopier avec Romulus, Rémulus, tout ça.
Très bien.
Voilà. C'est Rémus et Romulus, voilà, mais
Rémus en famille, Romulus et Romulus. Voilà. Pas là pour humilier les invités.
Non, mais c'est dégueulasse.
On rigole beaucoup avec ce petit.
S'il vous plaît, un peu.
Qu'est-ce qu'il veut l'autre là-bas?
Café, pardon, avec quoi? Avec quoi Philippe Robot a-t-il du mal dans sa vie privée, mais ça lui pose aucun problème au cinéma?
La moustache.
La nudité, wouh!
Non, ça c'est dit, ouais, absolument.
C'est vrai. Oh là là, bravo.
Bah oui, c'est vrai, tout
dans
est dit.
Dans la vie privée, vous n'aimez
pas... Ouais, j'éteins la lumière, ouais, moi je vis dans un appartement très sombre, je prends ma douche dans le noir. Et du coup, c'est bizarre parce que j'ai...
C'est trop con.
Comment?
Mettez des GoPros, c'est trop con.
Ah, c'est vrai, c'est pas con ça. Je devrais me filmer pendant que je prends ma douche. Non, mais je sais pas, j'ai un problème avec mon corps. Voilà, mais c'est vrai qu'au Cinoche,
vous regardez même pas dans le miroir quand même.
Ah non, si je me regarde dans le miroir, je
non, mais quand vous êtes nu.
Ouais, bah je me regarde pas dans le miroir, non.
Ah voilà,
parce que Nagui, lui, quand il a voilà, il se
regarde pendant
il se fait tous les miroirs.
Il y a pas un matin, j'ai une boule à facettes.
Mais après c'est étrange parce que au Cinoche, en effet, j'arrive à me foutre à poil devant n'importe quel mec qui me propose un court-métrage, il me dit tu veux te foutre à poil, je dis ouais. C'est bizarre,
là, c'est pas le cas dans le film.
Non. Ça, c'est vous, Roman.
Dans l'amour flou, c'est,
oui, c'est plutôt Roman.
C'est plutôt vous, oui, c'est ça. mais c'est comme vous l'avez co-réalisé, qui a eu l'idée de la scène de la totale nudité? C'est vous, Philippe, qui avez dit ça serait bien que tu sois totalement nu dans le film?
Ah non, je suis pas du genre à proposer ça, Roman. Non, je crois que c'est elle, toute seule.
Non, c'est moi.
Avec sa copine, avec Aliénor, elles ont eu l'idée de se foutre à poil.
Mais c'est un rire, pardon, vous avez dit quoi?
Non, avec sa copine Aliénor, qui joue dans le film, donc le binôme, elles ont décidé de se foutre à poil et oui, te balader dans les escaliers.
Rire,
ceci hein, dit, ça se justifie totalement par la scène et par ce qui s'y passe.
Bien sûr, oui.
La première question que je me suis posée en voyant le film, puisque je savais que le point de départ était votre histoire vraie, est-ce que tout est vrai dans le film ?
Non, tout n'est pas vrai dans le film, mais on s'est appuyé sur tout ce qui se passait dans notre vraie vie. C'est-à-dire, le film s'est tourné en même temps que les travaux avaient lieu, le déménagement, c'est notre vrai déménagement. Enfin, on s'est appuyé sur tout ce qui arrivait. Le jour où ils ont cassé le mur, j'étais pas là, j'étais en tournée à Annecy, donc on a fait la scène par FaceTime. Chaque fois qu'il arrivait quelque chose, le tournage est allé sur 6 mois. Des gens ne le savent plus maintenant, mais c'est vraiment notre appartement qu'on voit. Enfin, on a tourné dans les lieux. Et après, on s'est donné la liberté d'inventer évidemment des personnages, des situations.
Donc, dans un premier temps, c'est une histoire entre guillemets banale, un couple qui a 2 enfants.
Une tragédie banale, on peut appeler ça comme ça.
2 enfants et on ne s'aime plus. Quels sont les premiers signes d'ailleurs pour dire on ne s'aime plus?
Bah, c'est quand tu commences à dormir à 1 mètre de ta femme, par exemple.
Ça, hein,
avec ton chien, ou quand tu dors dans le canapé. Il y a plein de petits signes comme ça.
Quand tu travailles que c'est pas ta femme à côté. c'est pas ça, un signe en général.
Ça, c'est ça, souvent
c'est fait une dizaine à Guy l'année dernière quand vous avez eu ce petit coup de mou. Enfin, coup de mou, je ne juge pas, hein, c'est une expression.
Donc ça, il y a plein de petits signes. Ça, le diable dit dans les détails, hein, comme on dit. Donc il y en a plein. C'est quand le simple pas de ta femme t'énerve à peine a-t-elle passé la porte que là tu peux te dire.
Est-ce que c'est vrai que tout ce qui a fait que vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre a fait que vous êtes énervés l'un et l'autre quelques années après? Ce sont les mêmes raisons qui font qu'on s'aime et qu'on ne s'aime plus.
J'ai l'impression. C'est vrai.
C'est-à-dire que qu'on se re-aime encore. Enfin, je veux dire, ça revient. C'est pas des choses perdues, mais c'est vrai que bon, ça rentrait dans le. Mais tout ce que j'aime chez Philippe, tout ce qui m'a paru si différent du reste des gens, sa sensibilité extrême, voire fragilité, pardon, sa vulnérabilité, son approximation,
continuez, Roman, continuez.
Tout ce qui fait de lui un être très différent.
Ouais.
C'est à la fois ce qui m'a fait l'aimer passionnément, c'est ce qui m'a finalement usé au bout d'un moment, mais ce qui
aujourd'hui vous dégoûte, oui, on a.
C'est ça, ouais, le chemin. Ça va, arrête, c'est bon, les gens ont compris, mais non.
Fait re-aimer pour l'éternité.
Alors justement, l'idée au moment de cette séparation, il faut. Vous étiez dans un pavillon en banlieue.
Ouais.
Il faut donc changer.
Une maison, enfin.
Une maison, je sais pas comment.
Non, Montreuil.
Ouais,
à Montreuil. Bah, ouais. Bon, c'est pas ce qui se passe. Je crois qu'il y a des marécages, il y a des gens qui se mangent.
Ça s'appelle, non, mais elle a connu. Ça s'appelle un pavillon de banlieue.
Oui, c'est vrai.
Bah, non,
c'est
une maison à Montreuil.
Mais si, avec un petit jardin.
Ouais, un bon gros pave, quoi, quand même, on avait.
Ouais,
je dis ça parce que maintenant, moi, j'habite dans un mini-plex. Donc, je mesure la distance, quoi.
Ok, donc, il faut, en tout cas, changer d'adresse. Et là, à quel moment intervient la question? C'est lors d'une visite d'appartement en construction. Que le promoteur immobilier a, lui, l'idée. C'est pas vous qui avez eu l'idée au début?
En fait, on a tourné autour de cette question pendant plus d'un an dans cette maison qui était devenue assez triste. Il faut bien le dire, on n'était pas les plus heureux du monde. Non, mais comment on va faire?
Ouais,
comment
vous avez quoi habiter alors que vous n'étiez plus ensemble?
Ouais. Ça, comment on va vivre loin de nos enfants?
Heureusement, on avait plein de chambres. C'est pour ça que je disais, c'était pas un tout petit pavillon, c'est qu'on avait plein de chambres d'amis et tout ça, donc on a vécu dans des chambres d'amis, nous.
Voilà.
Chambres d'ennemis, d'ailleurs.
avec cette question.
Fais gaffe, Philippe, tu as commencé à la saouler parce qu'elle a pas fini sa phrase. J'ai vu le regard. Ok, donc tu vas continuer de me couper la parole.
Non, parce qu'elle parle longtemps, hein, moi. Voilà. Ça fait longtemps qu'elle me parle, ça fait 10 ans qu'elle me parle.
La différence, c'est que Roman parle longtemps, toi tu parles tout le temps.
Non, j'essaye d'être concise. Pourtant. Donc voilà, comment on fait? Nous, on était plus heureux à deux, mais par contre, on était si heureux tous les quatre, quoi. Comment on fait? Nous, on n'a pas réussi à se résoudre aux côtés, tu les verras tous les 5 jours, tout ça, c'était impossible pour nous. Et puis en visitant...
Donc la démarche, c'est pour le bien des enfants?
Et le nôtre. Je peux pas voir mes enfants sans voir Philippe les regarder, j'adore l'entendre les coucher, je veux qu'il soit là avec moi pour décider des trucs, je sais pas, c'est ensemble, quoi. Non, c'est pour nous, c'est aussi parce que j'ai besoin du regard de Philippe sur notre existence.
Il y a des parents divorcés qui prennent entre guillemets des enfants en otage dans l'éducation aussi, en décidant de choses dans l'éducation des enfants contre la vie de.
Non, moi j'ai
de
besoin de Philippe absolument. D'accord, pour nous éclairer sur ce long chemin de parents.
Pourquoi déménager alors? Pourquoi pas rester dans ce grand pave,
dans ce grand pave
avec
de
sa
banlieue.
Chambre
et faire, et faire des travaux de cloison
et sa vie.
Ça
un
aurait
peu,
pu, mais il ouais. y a aussi un besoin du coup de changer
de nouvel air,
un nouveau départ.
Et là, j'ai commencé à regarder les programmes neufs à Montreuil où on habite, du 40 mètres carrés au 80 mètres carrés, tout ça. Et je me dis deux appartements dans le même immeuble. J'envoie des dossiers, tout ça. Je me dis bah ça c'est une solution pas mal et ça. Et là, je tombe sur un type, Nicolas Segal pour le citer, qui construit des immeubles comme ça et qui c'est lui qui m'a dit votre idée est merveilleuse, mais alors pourquoi ne pas la pousser plus loin et construire et relier deux appartements par la chambre de vos enfants.
C'est génial.
Et c'était parti. Et le mec est un utopiste.
Et le mec est producteur du film.
Non, mais le mec a été une bonne âme vraiment sur notre. Il était, je sais pas.
Il a quand même détruit un mur porteur hein, pour faire ça. Donc je ne sais pas si cet immeuble va tenir très longtemps. Je le dis.
Et le passage au film, là, c'est lorsque vous étiez dans un festival en province. Pas du tout. C'est Philippe alors qui a une idée.
Non.
Je sais pas, tu me fais signe.
Ah non, c'était pour qu'il parle un peu parce que je veux quand même pas.
Non, bah vas-y, parle-toi. Parce que tu parles bien. Tu parles longtemps.
Non,
mais
pas dans
bien.
Un festival autour d'une cheminée, Noël, des potes.
Ah ok, d'accord.
On raconte, on va déménager. Philippe a un mini-plex, moi j'ai un duplex, ça communique par les enfants.
Philippe a un complexe. Moi j'ai un duplex.
Un open space, plutôt open que space.
Et quelqu'un dans un éclat de rire dit c'est dingo votre truc, c'est un film. Et voilà, là c'est parti.
Mais c'est un film au sens, j'y crois pas, c'est n'importe
c'est
quoi.
Ça. Voilà, c'est un éclat de rire.
Non, non, mais moi, j'y croyais pas. Hein. C'est le lendemain, elle prend le train, elle me dit on va faire un film doudou, parce qu'elle me parle comme ça. Elle me dit doudou, on va faire un film avec sa grosse voix.
Et toi, tu dis rien.
Bah, moi, je dis rien. Non, mais tu sais, 10 ans de vie avec Roman, tu dis plus rien. À un moment, tu. Quand elle prend sa grosse voix de Richard Boringer, j'aime autant. Un peu les miquettes. Et du coup, elle me dit doudou, on va faire un film. J'ai dit mais quand même, c'est compliqué de faire un film. On en fait toute l'année. On voit ce que c'est que faire un film. Elle me dit non, mais on va y arriver.
Voilà. Et vous êtes non seulement vous y êtes arrivé, mais en plus c'est un très beau film parce que cette histoire d'amour qui devient, je sais pas, une amitié définitive. C'est-à-dire que là vous êtes clairement dans la peau l'un de l'autre avec une complicité qui dépasse la barrière de la jalousie. Parce qu'on, encore une fois, on peut imaginer tous les couples être jaloux de la présence d'un homme chez Roman ou de la présence d'une femme chez Philippe. Apparemment, ce cas-là est plus rare.
C'est ça, merci. En conversion, c'est moins rare qu'on le pense, déjà. Ça dure moins longtemps, ça, je suis d'accord, ça dure pas beaucoup.
Mais il y a eu, dans ce film, il y a cette poésie, et puis il y a surtout la banane chez les enfants. C'est-à-dire qu'on voit que clairement, tout est pour les faire marrer, pour les rendre heureux, et ça a l'air de marcher.
Alors qu'ils sont chez leur psy, là, je crois.
En fait, on n'est pas parents, on est animateurs d'enfants. En fait, on fait un peu le même métier que vous, hein, Nagui, mais à la maison. Donc on les anime toute la journée, je ne sais pas pourquoi on fait ça. Voilà. Mais est-ce qu'un enfant qui se scarifie va mal? Non, j'ai pas l'impression. Une fille anorexique, un enfant scarifié, moi j'ai l'impression qu'ils vont bien quand même.
Non, mais il y avait l'idée vraiment de leur raconter la vie autrement, c'est vrai. C'est-à-dire d'essayer de leur expliquer vraiment que nous, voilà, adultes, on n'était plus amoureux, mais il y avait l'idée de leur dire, mais on va écrire l'histoire différemment.
Et on vous aime quand même.
C'est-à-dire pour vous, ça va aller, voilà, soyez cool, restez tranquille, et il va.
On vous aime peut-être.
En tout cas, amoureux autrement, parce que vous êtes quand même l'amour. Hyper proche.
Ouais, c'est l'amour. On est engagés pour l'éternité, ensemble.
C'est l'amour transformé, ouais, c'est, voilà.
Et alors vous accompagnez cette histoire de toute une galerie de personnages. Il y a les parents qui interviennent. Alors ça c'est quand même assez savoureux parce que c'est vraiment vos parents.
Bah oui.
Philippe Rebond, ressemblance mais alors folle, avec même intonation, même façon de fonctionner. Ouais, et chaque famille livre son regard sur ce projet.
Non, mais moi je suis fatigué de ressembler à mon père à ce point-là. C'est vrai, c'est déjà encombrant un père.
Mais non, tu ressembles pas à ton père.
Moi, tout le monde me le dit, je croise des gens dans la rue qui me disent tu ressembles à ton père. Je parle même pas du film, je parle juste des gens qui connaissent mon père qui me disent tu ressembles à ton père. Je ne sais même pas qui
c'est.
C'est
des jumeaux carrément.
C'est fort.
C'est fort. Savoir où tu vas, ouais.
La voix, l'intonation. Et alors.
Écoutez, je lui dois beaucoup à ce gars-là, ceci dit. Je tire mon chapeau parce que je lui dois. On les aime bien.
Alors, c'est intéressant de vous voir avec les paternels, qui sont deux figures assez fortes. Leur avis dans la réalité sur ce projet-là, sur ce département.
Dans la réalité. Moi, mes parents, ils sont toujours, ils suivent.
Il est un peu taiseux, Richard, dans le film.
Ouais, il est un peu taiseux. Il a toujours été assez dubitatif sur mes projets immobiliers, par exemple. Ça depuis 18 ans, ça a toujours été. J'ai pété le PEL à 18 ans pour acheter un truc. Il était très angoissé là-dessus. Il a été toujours, il est très, voilà. Il, mais comme ça à distance, il intrus, enfin il rentre
pas dans pas d'ingérence, ouais.
Pas d'ingérence, mais quand même petite sur le promoteur immobilier, les ouais. trucs, les dépenses.
Il y a un truc que j'ai pas compris dans le film, ouais. c'est que la dame qui joue votre maman est votre maman.
C'est ma maman, mais c'est, en vrai, c'est ma belle-mère.
Voilà, parce que.
C'est la femme de Richard, mais elle m'élève depuis que j'ai 5 ans. Donc
voilà,
c'est ma maman,
non, parce que ouais. la petite nuance, c'est qu'elle dit, on est ensemble depuis 30 ans.
Oui, c'est ça, il y a un mauvais calcul. Je vais pas expliquer dans le truc. Okay, c'est ma maman d'adoption.
Très bien. Non, c'était ouais. juste, je me suis dit, attends, ils sont ensemble depuis 30 ans, elle a une quarantaine d'années, il y a un truc qui.
Non, j'ai 27 ans.
La bougeatrice de Jean-Pierre sur le
très mauvais jour. C'est vrai. Donc, on s'est connus avant que tu naisses. Ok, d'accord.
Et vous, Philippe, du côté de la famille, parce qu'on vous voit accompagné de votre père et puis ouais. de.
Lui, par contre, il tchatche.
Deux frères qui sont un peu de rire.
Intrusif, carrément.
Ah oui, ils sont géniaux.
Bah, c'est comme ça chez nous. Hein. En fait, rien n'est dramatique tant que ça n'est pas dramatique. Donc, on fait des blagues. Voilà.
Toute la journée.
Et après, mon père me. Enfin, je crois qu'il m'aime bien quand même au final, mais il me prend un peu pour un con depuis le début. Donc, il est. Voilà, là, ce qu'il a inquiété, c'est vraiment ce qu'on dit dans le film. C'est-à-dire, il dit, mais comment, où tu vas vivre? Comme si je n'avais jamais vécu seul. Comme... mais je sais pas, il s'inquiète pour moi encore aujourd'hui.
Et le produit final et le film, ils ont aimé. Je me dis, vous avez fait une projet ouais. familiale quand même.
Non, mais là, on a tout un peuple derrière nous.
Ouais, c'est ça. On a un peuple d'amis.
Alors, il y a les copains autour. Il y a Gabor Rassoff, que j'ai connu, qui est dramaturge,
ouais,
qui est un
avec
beau
qui
proche.
Fait beaucoup de théâtre.
Voilà.
Mais on avait
qui
envie,
est dramatique.
Et qui est dramatique en directeur d'école chauve, avec postiché.
Légèrement réactionnaire.
Voilà, c'est ça.
Rédac, Adam et son chien. Scène cultissime quand même de deux mètres à son chien.
Moi je dois dire générosité de Reda qui est un copain quand même. Donc et on est voisins, donc on se retrouve souvent. Ce serait beaucoup de dire pour balader nos chiens, mais il n'est pas à ce point-là. Psychologue pour chiens.
Cela dit, sort en ce moment une publicité avec Reda et son
et
chien.
Son chien. C'est dingue, on dirait une
SPA, c'est extraordinaire.
Pour adopter plutôt qu'acheter.
C'est ça, parce que Reda a adopté ce chien qui a été un chien traumatisé. Polo est un chien traumatisé. Polo, le chien avec un trou. Et c'est rapport à la pub Polo,
oui,
le bonbon.
Oui, vous avez compris.
Et du coup...
Vous n'êtes pas dans la... Non. Vous êtes pas zoophile encore. Non, c'est ça.
Quel rapport. Et du coup... ouais, c'est ça. Non,
ouais, non, c'est toi qui nous arnaque, Guy.
Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire la grande générosité de Reda, c'est qu'en fait on lui a mis cette scène dans les mains, mais même pas une scène, on lui a dit ben viens un samedi matin, lui il avait un emploi du temps quand même chargé, c'est quand même un des acteurs français qui bosse le plus et qui est un génie. Et du coup il est venu un matin, on lui a dit écoute, on n'a pas grand chose, voilà, on va dire que t'aimes les chiens et puis on se balade tous les deux et on va parler chiens. Et le mec fait ça. Il se met à parler à mon chien en lui disant papa et maman se séparent, enfin ce genre de truc. Mais c'est fou. Et après, générosité complète de Reda, c'est de nous avoir dit qu'en plus, on lui avait offert son premier rôle de comédie. Ouais. Moi, ça m'a vachement touché qu'il nous dise ça, parce qu'on lui a offert quand même une minute et demie dans un film. Et il a dit ça, et ça me touche à mort, quoi. Je sais pas, je trouve la générosité de ce mec dingue.
Mais qu'est-ce qu'il est drôle et qu'est-ce que ça donne des envies de le voir dans une vraie comédie plus longue avec un rôle titre.
Mais voilà. Pour vous dire, on a tellement eu envie d'écrire pour les gens qu'on aime. Et que ça serve toujours le récit, hein. C'était pas juste se faire plaisir, filmer des gens qu'on aime. Il fallait qu'à chaque fois ça aille dans le sens de notre histoire et de ça, mais on s'est fait plaisir, quoi. On a fait tourner les gens de nos familles.
Surtout une scène où vous faites plaisir, oui.
Nos amis, mais des acteurs qui nous ont suivis dans une générosité absolue. Il y avait rien à lire à l'époque. Les scènes s'écrivaient parfois la nuit pour le lendemain.
Il y a beaucoup d'impro.
Ça dépend des scènes. Il y a des scènes très très écrites où on avait vraiment envie de se faire plaisir une fois de plus. Et il y a des scènes très improvisées avec les gens qui étaient moins acteurs. Donc on laissait tourner la caméra longtemps. On a tourné de toutes les manières possibles en totale liberté. C'était parfois.
En tout cas,
très
ça fonctionnait. On se laisse embarquer avec joie et plaisir. L'amour flou, c'est au cinéma aujourd'hui. Et Tom Villa, ça va être un succès.
Ça c'est sûr. Ça pourrait même être l'un des premiers films bien avec un jeu de mots dans le titre. Et j'adore les films de Danny Boone, c'est pas la question, mais enfin, red dingue. Bref, alors, je refais le pitch rapidement
parce que,
pour
parce
ceux
que
qui...
t'étais pas dedans, c'est ça.
C'est pas faux. Non, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, je refais le pitch. Un couple, 10 années de vie commune, 2 enfants, un chien. Ce couple va se séparer, mais comme il veut pas tout casser d'un coup, et pour le bien de leurs enfants, ils trouvent un appartement avec 2 appartements bien distincts pour eux et la chambre des enfants au milieu. J'ai regardé toutes les émissions de Stéphane Plaza pour préparer l'émission. Il a jamais réussi à trouver un truc comme ça. Vous êtes très très fort.
Roman Plaza, il a un. de le dire.
Ah non, mais alors au-delà de l'exploit immobilier, il y a l'histoire. Ils se séparent, mais ils s'aiment encore, mais ils sont sûrs de vouloir se séparer sans pour autant s'éloigner. C'est... Admettre que c'est fini, c'est jamais simple, mais admettre que ça commence non plus, d'ailleurs, c'est jamais évident. Est-ce qu'on prendrait pas deux minutes pour parler des gens qui n'arrivent pas à dire oui, je suis en couple? On a tous un pote comme ça qui n'arrive pas à prononcer le mot. Tu sais, alors il utilise des stratégies, tu sais, c'est le ni oui ni non de Jean-Pierre Descombes. T'es amoureux? Je sais pas. T'es en couple? Pas vraiment, voilà, c'est juste que j'ai qu'un seul plan cul en ce moment et que j'habite chez elle et... Oui, c'est ça, c'est une sorte de coloc, mais avec un seul lit. Non mais c'est vrai que c'est délicat ce passage de célibataire en couple. Vous savez pourquoi c'est compliqué? À cause des réseaux sociaux. Sur Facebook, à quel moment tu changes ton statut? Quand c'est presque fini, c'est pratique, tu vois, tu passes de en couple à c'est compliqué, tout le monde comprend que ça pue, tu vois. Faut quand même prévenir l'autre, parce que sinon ça peut être très compliqué.
Mais si l'autre voit, voilà. C'est compliqué.
Voilà, ouais,
c'est
mais...
compliqué après. C'est encore plus compliqué.
Faut pas se mentir, il y a des signes qui trompent pas que quand tu commences à être en couple, par exemple, pas la brosse à dents. Pour certains, c'est tout un cap. Pour d'autres, c'est une vieille émission. Mais pour les couples, c'est vrai. Pour le couple, c'est le premier pas. Faut arrêter de dire non, mais je laisse ma brosse à dents chez elle. C'est plus pratique. Le truc pèse 20 grammes. Ça fait la taille d'un stylo. C'est pas un appareil à raclette. Tu vois, c'est facile à transporter. Quand t'es en couple, voilà, c'est pas grave. Il y a d'autres signes qui montrent que t'es en couple. Le je t'aime qui sort tout seul. La première fois, c'est comme un peu si tu, je sais pas, tu lâchais une caisse, tu vois, tu t'excuses, tu bafouilles. Non, mais c'est vrai, c'est pas grave. Le romantisme,
t'as lâché plus de caisse que dit.
Le romantisme n'exclut pas les problèmes gastriques. Faut juste éviter de faire les deux en même temps. C'est tout ce que je voulais dire. Après, voilà, je peux comprendre que les gens qui ont du mal à s'engager. Je peux comprendre que voilà, les gens ont du mal à s'engager parce qu'ils ont été déçus. Moi, une fois, j'ai acheté une Clio, j'ai eu une merde. Enfin bon, bref. Après, du coup, j'ai fait que louer des voitures au coup par coup. J'avais plus de deux jours. Jamais les mêmes mais modèles, ça, voilà. Non, mais ça y est, maintenant j'ai trouvé une très belle affaire, bien côté à l'Argus, moteur neuf, pas de rayure à l'arrière, enfin.
Et avec tout ce qui. Je vais finir seul.
Voilà, ouais. Tout se passe bien, et si elle écoute, elle va me défoncer quand elle entendra cette chronique. Voilà, en tout cas, peut-être que en amour, on peut être déçu et avoir du mal à se décider. Par contre, pour votre film, faut pas hésiter à y aller parce qu'on sera pas déçu. Je termine par un jeu de mots, mais c'est vous qui avez commencé. Bonne émission.
Merci.
Bonne vie. Je veux juste préciser une chose et je le fais pas du tout par provocation. Oui, allez au cinéma voir L'amour flou. Allez aussi voir Galveston parce que c'est le nouveau film de Mélanie Laurent. On n'a pas eu l'occasion de faire l'émission hier.
Mais elle a pas voulu venir.
Avec le mouvement de grève. En tout cas, on lui aurait dit dans cette émission que son film est
film.
Extrêmement bien réalisé. C'est une. Vous avez pu le voir ou pas ce film?
Non, franchement. Aujourd'hui, non, c'est dans un égocentrisme.
Non, mais c'est légitime. Non, mais c'est de la force. La force
on a
du
vu
cinéma.
Ce matin, on a vu L'amour flou à 9h. Voilà. On l'a revu à 11h.
La force du cinéma, c'est que les films sortent en même temps. Il n'y a pas vraiment de concurrence entre guillemets entre les films. Non, surtout en deux styles totalement différents.
Mais quand il y a des bons films à l'affiche, moi en tout cas personnellement, quand je vois un bon film, j'ai envie d'y retourner dès le lendemain pour voir un autre c'est bon ça, film. Voilà. Donc du coup, c'est plutôt dans ce sens-là que ça joue.
Exactement, absolument.
Et elle, dans son film, elle a mis un beau gosse. Contrairement aux nôtres où on avait une belle gosse.
Oui, il est super beau, Richard Boringer, pourquoi vous dites ça?
Il y a Reda, quand même.
Ah, c'est vrai, pardon, ouais.
Il y a Lady.
Et le mec des...
Je t'en sors comme tu peux, ouais. Voici l'humeur d'Agnès sur scène.
Salut.
Bonjour.
Bonjour.
Namasté.
Namasté. Ce week-end, je me suis réveillée, j'allais bien. J'hésitais entre une petite brocante pour aller m'acheter un guéridon en rotin pour mon chez moi, ou bien me laver, ou bien passer au zéro déchet. Finalement, je me suis dit non, je vais écrire ma chronique. Alors je commence et je me dis tiens, je me dis tiens, Roman, son vibro, il a l'air bien, mais est-ce qu'elle le tiendrait pas à l'envers dans cette scène? Puis à coup, je me dis mais quel jour on est? Mais c'est ça, mes joyeux anniversaires! Joyeux anniversaire, Roman! Joyeux anniversaire, Layla! Joyeux anniversaire, toutes les demoiselles dans le public et tous les vaginous du monde! Mesdames, ce week-end, ça faisait pile un an qu'Harvey Weinstein était à son tour à quatre pattes! Un an pile de hashtag moi aussi et de balance ton cochon! Un an que la parole se libère et doit continuer de se libérer! Un an pile que moi-même, j'ai balancé un travers de port dégoulinant et marié. Le 10 octobre dernier, je recevais après une longue série de textos sans réponse de ma part le SMS suivant. Mais pourquoi vous ne venez pas au restaurant japonais, Agnès? Je t'aurais bien collé des edamame dans la chatte.
Oula.
Voilà. Véridique. Je rappelle que le harcèlement.
C'est quoi un amamé?
J'y viens. Je rappelle que le harcèlement commence là où l'on ne rit plus, comme dans une chronique, et se caractérise lorsqu'il est sexuel par le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité. pas comme dans une chronique. Et je rappelle que les damamés sont une préparation de fèves immatures de soja encore vertes, d'origine extrême orientale, consommée en Chine, en Corée, au Japon ou chez Sushi Shop. Mais j'étais moi-même à l'époque... J'étais moi-même à l'époque une fève encore assez immature et n'arrivais pas à répondre à ce poète immobile et honteuse, là où je croyais être viril et décomplexé. Comme quoi, c'est parfois plus facile de l'ouvrir sur scène devant plus d'une centaine de personnes plutôt que de faire taire un seul homme. Pourquoi ? Parce que la trouille. D'ailleurs, je m'excuse à l'avance auprès des auditeurs si ma chronique ce matin n'est pas hilarante, PTDR, lolilol, j'en peux plus. Mais j'avoue que finalement, c'est pas simple, enfin pour moi en tout cas, de réussir à faire des blagues sur des sujets aussi délicats que les damamés. On fête donc aujourd'hui un an sans porc et sans reproche. Un an surtout sans edamame. Et c'est là que l'histoire me fout en rogne, les amis. Parce que moi, j'adorais ça, les edamame. J'adorais ça, Nagui. Et maintenant, c'est foutu. Je ne peux plus avaler aucun sans que ça me renvoie à l'image de sport sur ce canapé. Parce qu'encore, il m'aurait écrit. Je t'aurais bien collé des yakitori bœuf fromage dans la chatte. Ça ne m'aurait pas dérangé, Philippe. Ça ne m'aurait pas dérangé. Parce que c'est dégueulasse, les yakitori bœuf fromage. Je déteste ça. C'est du monde, les yakitori bœuf fromage. Mais les damamés, voilà, ce n'est pas très gentil. Voilà, tac, on fête nos un an. Et pour toutes, cadeau, ce week-end à la Cour suprême des États-Unis d'Amérique, on a approuvé la nomination d'un juge accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes. Et même que ça fait marrer Donald. Happy birthday les copines. Heureusement qu'il reste encore des...
Il s'est même excusé Donald du traitement
qu'avait
subi.
Oui, il s'est excusé, il a dit que les hommes étaient victimes, c'est sûr.
Cavano.
Voilà, donc heureusement qu'il reste encore des pays où ça va méga bien, genre le Brésil. Non, je déconne. Allez, bisous les vaginous, bonne semaine.
Merci. Tous les jeudis, Agnès Surstel à 20h au Sentier des Halles.
Non mais moi je veux le nom du porc qui t'envoie.
Ah non, c'est pas la peine, cette histoire est réglée, mais j'arrive enfin.
Foutez la paix à Michel Drucker.
J'ai eu besoin d'un an pour faire des blagues sur des damamés.
C'est fou.
Je suis très triste de plus en manger, bref.
Est-ce qu'on donnerait pas son numéro à l'antenne?
Non mais c'est vrai.
Ah,
non.
Bonne idée, ça t'aime.
Non, mais comme ça le mec se prend plein.
Ça n'est pas le but de cette chronique.
C'est pas... On est hors chronique maintenant, c'est Tom et moi.
Oui.
On se laisse, ce journal de midi.
Allez, donne-nous son numéro. Donne-nous
ça
son
n'est pas le sujet, cette histoire est réglée, mais c'est drôle d'arriver à en faire enfin des blagues un an après.
C'est dingue qu'il y ait des mecs qui fassent des tweets comme ça. Voilà. Mais il n'y a pas que les gens.
Ouais, il y a des soirs, je suis un peu claqué, hein, j'envoie des petits SMS un peu pourris. Ouais, voilà. Des fois, la poésie, ça passe mal. Hein. Ouais. Enfin, je sais pas, vers 2h du match, je sais pas.
Non, là, c'était pas flou du tout. Il y a des moments où l'amour est flou et des moments où la haine est flou.
Ouais, c'est une mauvaise blague.
Clairement. C'est toujours la pirouette, Philippe, vous sortez de toutes les situations par une vanne.
Bah, je me sors de la vie par une vanne, ouais.
J'essaie
de m'en sortir parce que je me lève le matin, ça m'angoisse beaucoup la vie, donc du coup je m'en sors par une vanne. Et en gros, je suis pas le seul.
Ça veut dire quoi, la vie m'angoisse? Vous êtes hypochondriaque? Vous êtes...
Ouais, je suis tout ce qu'on... voilà, ça me fait peur, je me réveille le matin, j'ai peur de vivre. Donc après, j'essaie de trouver des bonnes raisons et je fais des blagues.
Quand on a des enfants, on a peur pour eux à ce moment-là.
Bah ouais, j'ai peur pour eux, j'ai peur pour tout, mais bon. Je veux pas pourrir l'ambiance, hein. Je suis un anxieux.
Ça donne un papa quoi, justement? Un papa très protecteur, très anxieux, avec ne monte pas sur l'arbre, tu vas tomber.
Non, c'est pas ça.
Je le pense, mais je leur dis pas, j'essaie de les laisser vivre.
Ouais, c'est ça. Bah oui.
Non, mais de toute façon, ça se passe pas comme ça, ça passe plus par, comment on dit, par capillarité. Il suffit pas. Il n'y a pas besoin de dire pour voir que Philippe est un papa, du coup, à la fois très poétique, très singulier et aussi fragile, donc c'est pour tout ça qu'on l'aime et que je voulais absolument ce père-là pour mes enfants. Après je vous dis,
ils ont une mère très autoritaire, tu vois, il faut bien qu'ils aient un mec sympa dans la famille.
Non mais on est
c'est pas vrai, elle est une mère magnifique, c'est bon,
on est très différents.
Il faut bien que l'un des deux serve de repère quand même.
C'est sinon, ça, ouais, si
non, mais sur notre manière,
vous êtes le père, elle est repère.
Ouais, je suis d'accord, bravo.
Bravo.
Je suis entièrement d'accord.
Non mais c'est pas sûr, parce que c'est pas sûr qu'ils préfèrent pas la...
Mais assumez, Roman.
Non, c'est pas sûr qu'ils ne préfèrent pas la rigolade avec leur père. Que la...
Je ne sais pas qu'ils ont de préférer un camp plutôt que l'autre, c'est un équilibre entre les deux.
Non mais en tout cas, c'est sûr que là, il y a une grande différence dans notre manière de nous réveiller le matin, par exemple, avec Philippe, et notre regard sur la vie, c'est vrai. Et on cohabite avec ça, et ils ont les deux. Voilà. Ils ont...
Il fallait arrêter le film à un moment précis. Il fallait qu'il y ait... Parce que le cadre de dire, à partir de la mésentente, on décide de se séparer, de prendre cet appartement, la chambre des enfants, où l'espace enfant, entre guillemets, est au milieu, et puis les deux pioles des parents sont de chaque côté et communiquent à travers ce palier. Il fallait bien trouver aussi un moment où arrêter l'histoire. Comment vous avez décidé ce moment ?
Bah, on a toujours voulu que ça soit une espèce de comédie très enlevée, très comme une ronde avec l'arrivée des autres personnages. Moi, je tenais beaucoup à ça.
Vous voulez qu'il y ait un mariage, vous voulez qu'il y ait aussi des messages.
Alors ça, par exemple, c'est aussi ce que nous ont donné les gens, c'est-à-dire que le mariage.
On va pas dévoiler ce qui se passe dans le film.
Voilà, ça c'est un vrai mariage, qui nous a fait écrire comment ils se rencontrent dans le film. Donc il y a des choses, voilà, mais c'est vraiment leur mariage, Delphine et Vincent. Quand on décide d'aller filmer ce mariage, donc on écrit comment ils se rencontrent dans le film. Mmh. Et ça, c'est de la fiction. Tout ça, mais...
L'idée de mère porteuse, l'idée de coller presque à l'actualité.
Bah oui, il y avait dans notre idée d'une. Moi, je suis très friande des comédies sentimentales à l'anglaise.
Avec Hugh Grant.
Mais j'adore, moi, Notting Hill, tout ça, voilà, c'est ma passion. Donc, en écrivant, on voulait qu'il y ait aussi, on voulait pas que ce soit que nous. Nous, ce qui nous intéressait, c'était d'emmener avec nous les gens qu'on aime autour, qui ont des histoires plus ou moins faciles, d'amour, de faire des enfants,
d'irradier
tout ça. S'aimer, de plus
s'aimer.
On voulait que ça, on voulait pas du tout que ça soit. Nous tout seuls, et du coup...
Pas que votre nombril, en fait.
On voulait que ça, ça irradie sur les autres, que nous on se sépare, mais qu'il y en ait d'autres qui se marient, et on a fait tout rentrer dans le film, et à un moment donné, on avait une pression assez... Enfin, quand même, on sait comment un film doit se finir, à quel endroit, enfin voilà, qu'il fallait qu'il y ait une espèce de
une
fin à chaque personnage. Ça, c'est très... dans les comédies sentimentales.
Et c'est ce qui est très beau, parce que je trouve que dans le film, il y a tous ces ingrédients un peu contemporains. Cette histoire de couple qui se sépare, vous, mais qui reste autour du noyau, et le noyau, ce sont les enfants, les rencontres, le mariage à la fin du film, c'est une rencontre aussi qui est assez contemporaine, comment on se rencontre par le biais d'intermédiaires de copains, d'ex, etc. Ne serait-ce que évoquer aussi les mères porteuses, et je trouve qu'il y a un truc hyper moderne, ça se trouve qu'il vous a même dépassé, mais quand je vois le film, je me dis, c'est au-delà de l'histoire que je trouve très belle, c'est qu'on réinvente un peu les schémas, et à chaque fois dans le film, vous donnez à penser tous ces schémas différemment.
Justement, on va en parler tout à l'heure avec Sabrina.
C'est le cycle de la vie, c'est très Hakuna Matata.
Non, arrête.
Non, on est très hippie, nous, on est très communautaire. C'est ça qu'on a.
On va parler de la coparentalité positive, parce qu'on peut se séparer. Ouais, c'est l'objet de son livre, on va en parler avec elle. Après, votre bande originale en musique, justement, dans les années 70, Philippe Robeau, vous écoutiez. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Say hey honey, take a walk on the wild side. Vous écoutez cette musique, là, vous voyez dans quelle piole, tiens.
Ah, je vois exactement ce qu'il décrit, c'est-à-dire le moment où je me rase les sourcils et tout ça, et puis je peux pas dire ça devant des gosses. Non, je sais pas, cette chanson me fait un effet dingue, elle m'a rendu subversif pour toujours. C'est-à-dire, enfin, je sais pas, je trouve qu'elle raconte une histoire, vous vous rendez compte, c'était en 60, je sais pas quoi, 69 ça,
hein,
73. C'est dingue d'avoir chanté cette chanson, mais moi, elle m'a attrapé. Et après, elle m'a fait penser le monde très différemment. C'est en disant, il y a des gens qui vivent ça, hein, qui a des transgenres, qui a des gens, et qui sont pourtant des gens qui existent et qui sont géniaux. Je sais pas comment... Après, elle est triste, hein, c'est un peu... Évidemment qu'il y a des endroits un peu glauques, hein. Mais voilà, prenez des cours d'anglais et apprenez cette chanson, les gosses.
On a pris l'année 65, c'est l'année de votre naissance, non. Philippe Robeau. Non, vous n'êtes pas né en 65?
Non, je suis né en 64.
Je vous ai rajeuni d'un an.
Merci, c'est sympa.
Mais, voilà. Mais vous êtes né à Casablanca et en fait, votre itinéraire, il est assez étonnant. Dans la famille, il y a déjà une personne qui est au sein du cinéma, on va dire ça comme ça, Thierry Lafronde, ou encore Vivre sa vie, Jean-Luc Godard, c'est votre oncle. Ou non,
Papa Poule.
Ouais.
Papa Poule.
Sadie Robeau.
Ça dit Robeau, mon oncle.
Donc déjà, il y a ça dans la famille, mais ça va mettre un peu de temps avant de vous venir à vous.
Ah bah ça, j'ai même pas fait le lien, moi. Hein. C'était notre acteur de la famille, et en plus un type formidable, que moi j'ai adoré et tout ça. Mais c'est vrai que c'est dingue, il y a comme un gène, parce que bon, mes cousins, enfin son fils est aussi acteur, on a tous, voilà, mais je sais pas, mais Sadie, c'est, je sais pas, c'était un type tellement bien, je sais pas comment vous dire, c'est au-delà de l'acteur. Ouais. Donc peut-être que je suis acteur à cause ou à grâce ou à Sadie, mais...
Parce qu'avant, vous avez été, vous avez fait des études de lettres, vous êtes...
Ouais, vite fait.
Vite fait, je crois, ouais. Ça a été un petit passage à...
toutes les lettres, hein, 8 lettres.
C'était le papa de Zabou Breitman qui était Thierry Lafronde dans le...
Ah bon ?
Le scénariste.
Non, non.
C'est le scénariste.
Ouais, c'est le scénariste.
Thierry Lafronde, ouais, ouais. C'est... Comment il s'appelle ?
Et l'acteur, c'est Jean-Claude
Gros. Jean-Claude Gros.
Ouais, ouais. Et vous avez été mannequin. Quand vous parlez tout à l'heure de votre rapport au corps... Alors ouais.
Bah vite fait, hein.
Bah ouais, mais quand même. Ouais. Mais quand même, il s'est mis à quai, j'ai lu Yamamoto.
Ouais.
Quatre défilés, hein, c'est pas non plus. Et puis alors... après, j'ai pris le melon, j'ai voulu aller faire un casting pour Jean-Paul Gaultier. Là, ouais. Je me suis fait jeter comme une merde. Ça m'a ramené un endroit un peu plus. Enfin voilà, je crois que je m'étais emporté. Même dans les escaliers, j'ai compris que je ne serais pas pris. Parce que je vais avec des beaux gosses, avec des, enfin bâtis, avec des muscles et tout ça, c'est beau. Ouais. Et je me dis, qu'est-ce que tu fous là? Pour qui tu te prends? Mais voilà, non, mais je suis très fier d'avoir fait ça, ouais. Enfin, mais d'avoir rencontré ces gars surtout, hein. Parce que c'est ça aussi. Ma chance, c'est pas juste de faire des défilés.
Pourquoi vous avez pris vos pensées? Qu'est-ce qu'il vient
en
vous?
Je sais pas. Mais je sais pas. Moi, par exemple, Yoshi Yamamoto, lui, par exemple, sa consigne, c'était de... Moi, il me disait « souris », alors qu'il disait aux autres de ne pas sourire.
C'est vrai.
Donc, je me disais, je sais pas ce qu'il voit en moi de...
Comment le prendre?
Ouais, comment le prendre? Non, mais c'était dingue, quoi. C'est toute une philosophie aussi, hein, de faire des défilés japonais, hein. Voilà, je sais pas. Je sais pas, c'était beau de voir ce type, enfin, ces deux types, ici, Yamake et Yoshi Yamamoto, travailler leur défilé. C'était dingue, quoi. Voilà, je sais pas, j'ai... Et après, bon,
là, visiblement, vous avez laissé tomber la mode, hein, on est d'accord.
Ah, non, il est super looké.
Je suis à l'avant-garde.
La casquette Chicago.
Il est hyper looké.
Et puis, c'est Harry Dean Stanton. Enfin, moi, je suis en hommage à Harry Dean Stanton en ce moment. Cravate plus casquette, c'est Paris, Texas. On est à un an de son décès, moi, j'y pense tout le temps. Non, mais c'est vrai, j'ai des mythes comme ça, donc moi, je suis obligé de me...
Il y a deux verres aussi, parce qu'on le voit dans le film. Il y a un mythe. Vous visionnez, vous regardez ensemble.
Je suis amoureux, carrément. C'est plus que un acteur que j'aime. Je crois que je suis amoureux de ce type-là.
Ouais.
Vraiment.
Mais il y a une parenté, une sorte de parenté, je trouve.
Bah, probablement, puisque j'ai tout regardé de deux verres 3000 fois. Donc, même quand je dois jouer une scène, je me demande comment lui, il aurait joué. C'est donc, je m'appuie là-dessus.
Même la scène du chien avec Rella Kata, vous vous demandez comment devoir jouer.
Ouais, je demande tout, ouais. Tout le temps. Je fais appel à lui, c'est mon cours de théâtre.
Vous lui parlez de temps en temps?
Bien sûr. Ouais. Je lui parle, mais je danse sur ses chansons. Il a écrit deux chansons, moi je danse dessus, ok. Ouais.
Roman, dans les musiques de votre enfance, il y avait.
Un enfant de la balle, ça fait ses mâles. Et ça se trimballe.
Il y a vraiment cette musique où vous avez pris le titre
non,
pour une balle.
Non, il n'y a pas du tout cette musique. C'est que quand j'ai lu qu'il fallait dans ma playlist dire la 73, ma naissance, enfant de la balle. J'adore cette chanson, je la trouve dingue. Enfin, donc c'est pas vraiment la musique de mon enfance, mais c'est un peu ce que j'étais.
Il y avait quoi à la maison quand vous étiez petite? On écoutait quel genre de musique?
Je me souviens pas du tout, carrément. Non. Donc, non.
D'accord.
Ouais. Il n'y a pas des souvenirs non plus des amis de votre père qui venaient à la maison parce
non,
que...
Non, il n'y a pas d'amis.
Non, mais j'ai pas de...
Parce qu'on parle d'enfant de la balle, on se dit bien que vous avez été amené à
non,
croiser...
Non, cette chanson me fait penser à la vie qu'on a eue avec mon père et tout ça. Mais à vrai dire, je ne savais pas quoi répondre sur quelle chanson exactement... on était un peu mobile, un peu pas sédentaire, donc du coup, j'ai pas de souvenir vraiment de...
Il beaucoup au tennis, il te faisait beaucoup bosser le tennis, ton père, hein. Il a beaucoup bossé le couvrier, marrant.
On va essayer d'en trouver des souvenirs, peut-être, avec Jacques Higelin que vous écoutiez en 2007.
Pour vous, Roman, c'est la naissance de Rose.
Oui, non, 2008.
C'est la conception.
Non, ouais. Elle a sous les yeux le papier où il est marqué 2008.
Ouais, mais le temps de le lancer, le bébé, c'était en 2007.
Ouais, c'est un peu long.
Et alors, ça prend un peu de temps à chercher.
Quand on dit un 24 décembre 2008, ça fait
13 mois de grossesse quand même.
13 mois de grossesse.
Vous en parlez dans les interviews, Roman, de la naissance de Rose comme. Au-delà de l'événement que ça peut être éventuellement pour une femme ou pas, de toute façon, mais en tout cas pour vous, il s'est passé quelque chose d'important dans votre vie.
Bah, Oui.
Mais non, mais toutes les femmes ne le vivent pas de cette façon.
Vous dites que c'était un rêve absolu.
Ouais, que c'était une concrétisation. Non, mais c'est vrai. Ouais.
Alors, comment faire court, depuis mon plus jeune âge, 16, le Graal de ma vie, ça a été d'être maman. Parce que la
c'est
mienne.
C'est pas commun pour toutes les femmes.
Ah oui, c'est vrai.
Ah, bah ouais.
Parce que la mienne est partie très tôt, à tous les sens du terme. D'abord partie quand j'avais 9 mois, puis partie vraiment quand j'avais 14 ans. J'ai eu l'impression que ça me serait supprimé, cette possibilité d'être mère. J'ai eu l'impression que ça ne m'arriverait pas, qu'il y aurait une malédiction. Voilà. Donc c'est vrai que le jour où j'ai accouché, je me souviens jusqu'au bout avec la sage-femme, je disais à Nathalie, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver. J'avais l'impression que quelque chose m'empêcherait d'accéder à ça, tout comme quelque part j'avais été empêchée d'accéder à ma mère, voilà, d'une certaine manière. Donc c'est très compliqué tout ça. Donc j'ai eu, et du coup quand c'est arrivé, et même encore maintenant, quand je regarde mes deux enfants,
Raoul et Rose,
voilà, je me dis, mon Dieu, c'est vraiment arrivé. Voilà, c'est profondément.
Et quand elle dit mon Dieu, c'est vraiment arrivé, elle vous parle pas, Philippe.
Ouais. Non, non, mais c'est ça, c'est que moi, ce que je me suis dit, c'est mon Dieu, ça m'est arrivé de faire l'amour. C'est clair, quand je regarde mes deux enfants, je me dis génial, putain, j'ai fait l'amour deux fois.
Est-ce que vous étiez imaginé papa? Est-ce que vous avez eu une fibre paternelle
Ouais, en fait, j'avais pas imaginé que je ne le sois pas. Mais c'est vrai qu'avant de rencontrer Roman, ça n'avait pas eu lieu. Et puis j'étais en train de vieillir gentiment et peut-être en train de me dire, voilà, ça va se passer comme ça. Je n'aurai pas d'enfant. Voilà. Mais je sais pas. Après, ça a été un rendez-vous. Mais je sais pas comment répondre à cette question. Je n'avais jamais imaginé que je n'en aurais pas. Mais pourtant, j'étais en train sur le chemin de ne pas en avoir. Et puis finalement, j'ai rencontré cette fille.
Ouais,
qui m'a fait deux enfants magnifiques.
Quand vous draguez Clémentine Autain dans le film, quoi?
Non, mais oui, c'est vrai.
Ça s'appelle comme ça,
ouais,
non?
Ça s'appelle draguer, oui. Ouais.
C'est plus ou moins adroit, d'ailleurs.
C'est moyen.
J'aime rien foutre.
C'est pas un tuto pour dragueur. Hein,
non, c'est au contraire, en gros, non, c'est tout ce qu'il faut pas faire, peut-être.
Ouais, ouais.
Et vous parlez de vos enfants.
Tu vas regretter cette phrase.
Mais vous parlez de vos enfants comme d'une fierté, quoi, en disant.
C'est ma grande fierté. Je crois que si j'ai atteint un endroit classe dans ma vie, c'est d'avoir fait deux gosses et ces deux gosses-là que je trouve géniaux. Je pense même que c'est peut-être mon boulot, je ne sais pas. C'est ma vocation, ma vraie vocation, c'est être père. Donc j'en suis très très fier.
On va parler donc de la parentalité avec vous, Sabrina de Dinechien. Bonjour, vous êtes. Auteur chez Erol de Rester parent après la séparation, ce qui est complètement le sujet du film.
Pile.
Totalement. Et vous appelez ça la coparentalité positive.
Oui.
Quelle définition donnez-vous?
Comment être parent d'une façon efficace? Comment faire en sorte que...
Au-delà de la séparation toujours? Ou même avant la séparation?
Non. Je parle vraiment de après la séparation. D'accord. C'est-à-dire quand on est séparé, souvent, les gens n'habitent plus ensemble.
C'est un combat pour. Il
arrive aussi effectivement qu'ils se détestent, qu'il y a un véritable conflit et effectivement tout ce combat autour de l'enfant. Et on se rend compte que finalement l'équipe parentale n'y arrive plus. Mm. Les parents ne sont pas ont du mal avec eux-mêmes. Ils sont pas.
Le plus gros problème, c'est quoi? C'est une affaire d'ego de chacun des deux en disant c'est moi qui ai raison dans l'éducation. Ouais. Ils oublient l'intérêt de l'enfant.
Je ne dirais pas qu'ils oublient l'intérêt de l'enfant, parce que c'est vraiment leur moteur, c'est que ça soit le mieux possible pour les enfants. Mais je pense qu'ils pensent que c'est eux qui savent le mieux ce qui est bon pour l'enfant. Donc la mère qui pense qu'elle sait, elle, ou le père qui dit qu'il sait ce qui est bon pour les enfants, en fait.
Et la solution alors trouvée par Roman et Philippe, qu'est-ce que vous en pensez? Honnêtement, c'est pas parce qu'ils sont là.
Elle est, je la trouve extrêmement originale.
Parce que c'est pas une fiction, c'est une réalité.
Et je sais. Voilà. Et à la fois, en fait, il y a plusieurs choses à dire. Je pense qu'autrefois, ça existait.
Ouais, tout à fait.
Les gens faisaient soupe à part, en fait. Mais ils restaient dans la même ferme, dans le même domicile, parce qu'ils étaient nés là et que la vie continuait à ce endroit-là.
Ça ne te faisait pas divorcer.
Non, mais pas forcément ça. Juste parce qu'on est là. On est là. Voilà. On habite là et qu'il n'y a pas de raison d'aller déménager ailleurs. Donc soupe à part, ça se faisait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui restent effectivement en colocation, alors qu'ils se détestent. et ça se passe mal. C'est extrêmement compliqué. Ils n'ont pas les moyens de déménager ailleurs.
Ce que dit Clémentine dans le film.
Oui, hein. Ouais, crise, crise de l'immobilier.
Voilà. Logement, impossibilité. Alors,
à propos des chiffres, elle est totalement à côté de la plaque aussi.
Ah bon?
Ah bah oui. Elle dit il y a 130 personnes.
130 000 divorces par an, elle dit.
Non. Elle dit il y a 130 000.
On n'attaque pas Clémentine. Hein,
il y a
pas
de chiffres. Elle
est en train de conclure.
Je suis désolé, mais non, mais je trouve ça totalement dingue. Elle dit il y a 130 000 personnes qui divorcent tous les ans, 130 000 couples. Donc il y a une personne.
Ah oui.
Eh ben ouais.
30 000 divorces.
Eh ben, vous parlez de chiffres, mademoiselle.
C'est précis.
Non, enfin, mais blague à part. Donc, c'est vrai que c'est de la crise de l'immobilier. Ça coûte cher de se séparer. Et ça coûte cher d'avoir
les moyens,
deux fois plus de, entre guillemets, de maisons.
Bah, évidemment, il faut tout acheter en double. De lits, de ordi, de chambres, de meubles, enfin, de loyers parfois, enfin, ou de, voilà.
Ah ouais, carrément.
Donc, c'est évidemment extrêmement cher. Et donc, effectivement, il y a des gens qui n'ont pas le choix et qui, du coup, vivent ensemble. Mais
il y a même des papas qui se mettent en coloc entre eux, des papas divorcés qui prennent un appartement ensemble. Non, c'est un vrai phénomène, ça. Vous me regardez comme si je faisais une vanne. Il n'y a aucune vanne.
Il peut y avoir
plein de papas divorcés qui se disent, bah, si on prenait une piole ensemble, et ils font un tour de rôle comme ça les semaines gardées.
Alors, il y a des papas qui font ça, il y a certainement des mamans qui font ça, mais plus précisément par rapport aux parents, il y a aussi, vous avez raison, des gens qui font ça, qui laissent les enfants dans la maison familiale, dans l'appart familial, et qui se relaissent, ça évite d'avoir ce qu'on appelle un enfant valise, entre guillemets. Les enfants restent à la maison et les parents bougent. Ça marche tant qu'on n'est pas en couple. Mais une fois qu'on a refait sa famille, bah, ça devient extrêmement compliqué. Et je pense que dans l'histoire de Roman et de Philippe, peut-être que ça sera plus compliqué le jour où vous referez peut-être une autre famille.
Mais il y a des scènes dans le film déjà où la vie, la sexualité revit pour l'un et pour l'autre.
Mais c'est pas
crédible.
Ça peut être crédible, peu importe.
Non, autrement dit, s'il y a une femme qui devient la belle maman, s'il y a un homme qui devient un beau papa, ça devient compliqué.
À long terme, c'est là que ça devient compliqué quand on vit sous le même toit.
Nous, on croit qu'on arrivera à attirer autour de nous des gens partants.
Parce qu'on est d'abord communautaire. C'est-à-dire pour nous, une famille, c'est d'abord une communauté et que même un nouveau papa, une nouvelle.
Donc c'est un film promotionnel, ce que vous avez fait.
pour la communauté.
Non, mais nous, on croit fondamentalement. Ah oui. Alors, c'est peut-être 8 personnes sur 10 n'y arriveraient pas, mais on croit qu'on va trouver les 2 sur 10 qui. C'est pas une recherche à tout prix, mais je veux dire. On a les amis aussi et les amours qui nous ressemblent. Donc, je vois pas comment, moi, j'aimerais quelqu'un qui serait absolument allergique au fait de rencontrer Philippe pas loin. Je vois pas.
Mais
je vois
s'il
pas.
A des enfants, comment ça va
Ils agrandiront la maison.
Ouais,
non, mais tout se réécrira au fur et à mesure. Mais
surtout les enfants, est-ce que c'est pas eux qui sortent gagnants de cette histoire?
Dans l'histoire de Roman et Philippe?
Ouais, Sabrina.
Sans doute. C'est peut-être flou pour eux aussi. Mais au moins, effectivement, ils ont accès à leurs deux parents comme ils veulent. C'est peut-être plus compliqué pour les parents.
Est-ce qu'il y a, alors, vous avez l'air d'avoir un doute. Est-ce qu'il y a la solution? C'est quoi la solution idéale?
Je pense qu'il n'y en a pas. Je pense que déjà, si la solution idéale, déjà pour les parents, c'est d'arriver à continuer à communiquer alors qu'ils sont séparés et d'éviter intensément la guerre. Mais ça, pense que vous avez réussi.
Voilà.
Et d'ailleurs, le titre de votre film est excellent. L'amour flou. Quelque part, vous vous aimez encore. En tout cas, c'est l'impression que ça donne.
Évidemment, voilà, c'est pas du tout un modèle, ce truc-là. Tout le monde ne peut pas vivre comme ça, bien sûr. Ce qu'on voulait raconter dans le film, c'est ça. C'est continuer de s'aimer après. Malgré tout.
Ouais, trouver un moyen d'être heureux pour rendre heureux ses gosses, hein. C'est quand même ça le.
Mais c'est parce que moi, c'est
pas la communication. Qu'on soit ensemble, dans le même appart ou pas. Voilà. Nous, c'était un film d'amour. C'était plutôt une humeur.
Mais c'est possible que parce que votre couple est dépassionné, j'ai envie de dire. C'est-à-dire pas d'amour, mais c'est-à-dire dans le rapport à la jalousie où le corps de l'autre lui appartient et il fait bien ce qu'il veut avec, à condition que de toute façon, on soit en mesure de se retrouver autour des enfants, quoi.
Ça veut dire que le deuil a été fait.
Ouais. Et le jour où les enfants sont plus là.
C'est pas tout de suite.
Je me pose la question.
On avance, non, mais 7 et 9 ans, tu vois, on a encore du temps. Moi j'ai l'impression qu'on aimerait bien vivre comme ça, pas trop loin, même si les enfants n'étaient pas là.
C'est surtout qu'on se ferme à rien, c'est-à-dire c'est une histoire en mouvement.
Il y a un chapitre
déjà.
Il y a un chapitre dans votre. Il y a un chapitre dans votre livre que je trouve plus intéressant encore que les autres, c'est apprendre à se parler, ou à se parler. Parce que tout est là finalement, problème de communication. Exactement, faut parler. Restez parents.
Sortir des malentendus.
Restez parents après la séparation. C'est Sabrina de Dinchin qui signe chez Erol ce livre. Merci Sabrina d'être venue nous éclairer à ce micro. Tanguy Pasturo, bonjour Tanguy.
Bonjour Nagui, bonjour à tous.
Depuis lundi, vous n'avez pas le moral. Qu'est-ce qui se passe?
Non, bah oui, j'ai lu le rapport du GIEC, là, les types qui chroniquent une fois par mois la fin du monde. Et c'est alarmant. On fait comme si tout allait bien. Ouais, salut Nagui, ça va la bise. Pendant que notre maison, la terre brûle parce qu'on habite tous la même maison, comme Maxime Le Forestier et ses potes en 69. Mais sans les poux,
on en parle après les infos de midi. C'est la bande originale, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec Léa Camille de
Dix,
Agnès Hurstel, Tanguy Pasturo, Tom Villa, Daniel Morin.
Ah ouais, c'est bon, ça va.
Et nos invités, Romain Boringer et Philippe Romeau.
Bravo.
Bonjour.
L'amour flou sort aujourd'hui au cinéma, cette histoire d'un couple qui s'aime, un couple qui a deux enfants, un couple qui aime ses deux enfants et qui continue de s'aimer malgré le désamour, c'est-à-dire que c'est un amour encore plus fort qui pourrait être assimilé à celui d'un frère et d'une sœur, celui de d'un lien familial qui est impossible à effacer, mais il n'y a plus l'histoire sexuelle, il y a cette distance qui s'installe.
C'est une amitié homme-femme, mais sans le sexe.
Voilà, voilà, c'est ça.
Enfin, c'est, voilà, non, mais...
Oui.
C'est ça. J'ai bien, il la regarde, j'ai bien dit là ou pas?
C'est toujours ça. C'est la grosse voix de Richard.
C'est toujours ça.
La grosse voix de Roman même. Si ça ne tenait qu'à vous, il n'y aurait pas eu de film, Philippe Robot.
Ah, si ça tenait qu'à moi, ouais, il y aurait jamais eu de film. C'est-à-dire, je n'y ai pas cru une seconde. Chaque jour, j'ai quitté ce film en disant à Roman, moi j'arrête. Puis après, je suis aussi très velléitaire. Donc, moi, j'arrive pas à monter un projet tout seul, un truc comme ça. Heureusement, il y a cette locomotive, ce tank.
Et pourtant, vous le signez tous les deux. Vous l'avez.
Ouais, elle est sympa. Elle était très sympa de mettre mon nom au générique.
En tant que réalisateur.
En tant que réalisateur, ouais. Normalement, il devrait y avoir marqué un film de Roman Boringer et Philippe Robot.
C'est vrai, Roman?
Non, c'est pas tout à fait vrai. Ce qui veut dire par là, c'est que moi, j'adore aller au bout des objets, des créations, quoi qu'il m'en coûte, et sans tout à fait savoir si c'est parfait, bien, perfectible. Enfin, je voulais faire ce truc. J'étais mue par une intime conviction.
Non, mais la réalisation, c'est quand même de décider d'un cadre, c'est de
diriger
les acteurs.
Non, parce que ça, on l'a fait avec notre chef-op et tout ça, et Philippe était là tout le temps. Ce qui veut dire par là, c'est que moi, je suis une faiseuse, j'ai fait avancer le truc, j'y croyais jusqu'au bout, c'est moi qui parlais aux gens, c'est moi qui réunissais les... Mais sans Philippe, et c'est pour ça qu'il signe absolument la réalisation de ce film, il n'y aurait pas eu l'espèce de poésie qui pour moi irradie le film. Moi je suis quelqu'un de plus carré, de plus pragmatique, je voulais que le truc aille au bout.
D'où ma fatigue.
Le miracle de ce film, c'est qu'on ait réussi à le faire tous les deux et qu'il y ait nos deux personnalités qui survivent à l'intérieur, c'est-à-dire mon côté comment on pourrait dire pragmatique, c'est pas très beau, mais
bouffeuse de vie, non, mais
non, mais voilà, je vous
bâtisseuse, quoi,
bâtisseuse, ouais, voilà, ouais. Et puis si mais des murs comme ça, juste comme ça, c'est un peu ennuyeux.
Non, mais c'est ce que vous dites tout à l'heure sur le couple, c'est que vous êtes le repère, le cadre, et que la folie qui est au milieu du cadre, c'est Philippe, c'est
ouais. Moi, je suis aussi, bon, ceci dit, au-delà de la blague, je suis quand même un père assez... Enfin, je les amène... Ouais, non, je les amène à l'école à l'heure.
Ouais, c'est vrai.
Oui, ça serait
dépendant. Ça s'appelle ponctuel, ça, c'est ponctuel,
ouais. Non, mais je suis aussi un repère...
Il est assez cadrant aussi, mais en tout cas, pour ce qui est du film...
Et aussi, non, je voulais en arriver, c'est qu'elle est aussi, assez dingue, hein. Ouais, faut pas croire non plus, hein. C'est pas non plus que...
Non, c'est pas... Voilà. Ouais, c'est pas
mais
tout.
Voilà, il est co-réalisé, parce qu'il y a vraiment nos deux regards dedans.
En tout cas, il est touchant, parce qu'on sait qu'il est vrai déjà, et ça sonne et ça nous parle.
Mais est-ce que de se jouer soi-même, c'est pas le truc le plus dur au monde finalement? Ou est-ce que quand on regarde le film, est-ce que c'est vraiment moi? Non, vous voyez ce que je veux dire, ou la question était trop compliquée?
Non, je vois tout à fait. Nous, on devait rejouer des scènes qu'on avait vécu, en quelque sorte vécues, ouais, mais réécrites avec la distance nécessaire et ça. C'était étrange par moments, c'est vrai. Et en même temps, on s'est écrit aussi des personnages qui nous faisaient marrer, avec des trucs à jouer marrants. Enfin, on s'est mis un peu à distance aussi, donc ça c'était agréable. Pour vous dire, moi personnellement, c'était pas le truc le plus agréable. Ce que j'ai aimé vraiment, c'est filmer les autres. Ça a été mon grand bonheur, c'est à chaque fois que...
Votre découverte peut-être même, d'ailleurs.
Hein?
Vous avez découvert quelque chose que
ouais,
vous avez
ouais,
envie
carrément,
de faire
écrire à des rôles pour quelqu'un, les voir arriver. J'ai tellement de gratitude pour les gens qui sont dans ce film, et y compris filmer Philippe, c'était merveilleux quand il était... Tout d'un coup, je voyais dans son œil quelque chose, ou une réplique, ou quelque chose chose qui fusait comme ça, une magie. Voilà, moi j'ai pris plaisir à jouer mon rôle, mais mon bonheur sur ce film, c'était d'être spectatrice de tous ces gens qui sont venus y participer.
Ça s'appelle L'amour flou et c'est aujourd'hui au cinéma et c'est drôle, c'est touchant et c'est poétique. Voilà, ça fait du bien de parler temps qui court. Voici Tanguy Pastureau. Hier, Tanguy, vous avez passé une bonne journée.
Oui, je profitais des 24 degrés avec du soleil en octobre, sans me poser de questions, ne réalisant pas qu'en 25 ans à Paris, on était passé du climat de flair dans l'Orne à celui de Los Angeles.
Je peux recommencer.
C'est pour ça que Pamela Anderson vit ici. Un jour, elle s'est plantée d'avion, a vu Paris-Plage sous 37 degrés avec des êtres allongés en randonnion sur le sable. Un humain, un rat. Et s'est dit, I love this country, je reste. J'étais bien, à l'aise, en slip sur ma terrasse. C'est important de faire rêver l'auditeur. Jusqu'à ce que je lise le rapport du GIEC, les experts en climat. C'est comme Evelyne Delia, mais sans la choucroute parce que passe pas à la télé. Rapport paru lundi. Et là, j'ai réalisé que le fait qu'on boive toujours des spritz en terrasse à 22h, alors qu'on devrait tourner à l'oscillococcinum, n'est pas normal. C'est un signe de la fin du monde. Maintenant, on a des moustiques 9 mois sur 12. Je dois me couvrir de spray à la citronnelle. Les deux tiers de l'année, j'ai la même odeur que les toilettes de ma marraine. En novembre, on voit des mecs porter des claquettes. Moi, je m'en fous, le look des gens, ça me passe au-dessus, ce qui explique pourquoi on a de si bons rapports, Nagui. Mais Christina Cordula, elle va se pendre avec les manches d'un petit haut pour tasper des reines du shopping en voyant ça. Alors que nous dit le GIEC, alors qu'il faut agir, et pas dans 4 ans ou dans 4 mois, là, il faut qu'on sorte les doigts du postérieur, et même la tête. Ça doit être pour ça qu'on voit rien, parce que quand il s'agit d'occulter la réalité, d'un coup on est très souple, il y a 7 milliards de fakirs. Là, on n'en est même plus à arrêter le changement climatique, on essaye de limiter. C'est la même chose que quand Kylian Mbappé déboule sur un terrain et que le gardien de l'équipe adverse se dit « je vais faire ce que je peux, mais enfin je le sens pas ». Si on prend 2 degrés de réchauffement au lieu des 1,5 prévus par les accords de Paris, la moitié des animaux crèveront, dont les tortues marines, ces bêtes qui ont la même longévité qu'Alain Juppé. Le panda devra migrer vers le nord de la Chine parce qu'au sud il fera trop chaud. C'est comme chez nous, Shenzhen qui est au sud, c'est l'équivalent de Cannes. Y a des vieilles chinoises avec des collants léopards qui adorent Eric Ciotti, qu'elles appelle petit panda chauve. Seulement dans le nord de la Chine, c'est la montagne. Le bambou n'y pousse pas. Or, le panda se nourrit de bambou. Donc, c'est comme nous quand on gravit le Mont Blanc et qu'on réalise qu'il n'y a pas un couic. Avec 2 degrés d'augmentation, les sols meurent. La mer chauffe. Fini l'élevage et la pêche. Gérard Larcher va devoir manger son chat s'il veut éviter de devenir vegan. Et les réfugiés climatiques, ce ne sera pas l'Aquarius avec 50 gonzes. Les mecs, pour fuir les après-midi à 55 degrés, vont attaquer les navires Costa. Foutre à la baille Hervé Villard de la Croix irage tendre et venir par centaines de milliers. On va récupérer tous les Africains. J'essaye de trouver un truc qui pousse vraiment les gens à changer.
Ouais, c'est ça. On peut encore sauver la planète.
Oui, non, ça y est, Nagui, c'est fini, c'est cuit. Donc il faut en profiter, faisons l'amour tous ensemble. Pour en réchapper, il faudrait diviser par 2 nos émissions de gaz à effet de serre. Mais ça, les politiques, ils s'en foutent. Ils en sont à se taper un orgasme quand on prend 0,1 point de croissance, c'est vendu. Moi, si je croise François de Rugy un jour, je lui dirais, allez vieux, t'attends quoi le déluge? Il est là, sensibilise Macron, parce que lui, il a le MEDEF qui lui parle business, il a Total qui lui offre des serviettes boulébiles alors qu'il n'a que 3 points Total, pour qu'il continue avec le pétrole. Fait quelque chose, Et puis chacun d'entre nous doit se bouger. L'AFP avant-hier publiait les moyens de réduire son empreinte carbone. Donc il a renoncé à un voyage en avion par an. C'est rien, De toute façon, les centres-villes partout dans le monde, c'est juste Zara plus H&M plus Starbucks. Donc on peut rester chez soi, Il y a moins d'étrangers. J'essaye vraiment de mobiliser les Français. Et on rate pas plus belle la vie. Sinon, il y a abandonner la voiture à essence. Bon, c'est une évidence. Et faire un enfant en moins, Parce que la planète va pas pouvoir accueillir tout le monde. En plus, quand on s'est farci l'intégrale de Petit Ours Brun une fois, on est en droit de dire à son gosse, Loulou, je te kiffe, mais si tu veux un petit frère, c'est toi qui t'en occupe, la même chose que quand t'as demandé un chien. Alors on dit souvent, faut sauver la planète, mais c'est une connerie. La planète s'en sortira sans nous. Si on décède tous dans 10 ans, il y a de la nature partout, sauf aux endroits où est uriné Christopher Froome, parce que rien repousse. Ça lui fera du bien à la planète qu'on soit plus là. C'est sauver l'humanité dont on cause, donc nous-mêmes. En fait, c'est un truc très égoïste, donc ça devrait nous parler. Et les petits gestes accumulés, ça compte. Quand je pense que là, je fais la leçon à tout le monde et qu'ici, en studio, par émission, on se tape 10 mini bouteilles d'eau par jour, fabrication pétrole et recyclage nul, le truc, une fois sur deux, finit dans un dauphin, tel le plongeur obsédé. C'est la honte. La boîte ne devrait nous filer une bouteille en verre qu'on garde à vie, avec nos blesses dessus pour éviter de se refiler des mycoses, et on remplirait le machin avec de l'eau du robinet. Il paraît qu'elle est bonne, hein, d'après un employé de la mairie de Paris qui est décédé mystérieusement 3 jours plus tard. En plus, c'est cancérigène le plastique, donc on va clamser, et à la fin, c'est Vincent Moscato qui tourne au pastis pur en bouteille de verre, qui sera en rejet, qui reprendra l'émission, bordel. Bon, donc à titre personnel, je n'ouvrirai pas ce midi ma petite bouteille d'eau. D'ailleurs, bah, voilà, je n'en ouvrirai plus jamais. C'est mon engagement. Voilà, j'ai fait ma part. Maintenant, à vous d'agir et de nous sauver de ce merdier. Merci, bravo, au revoir.
Ramasse ça quand même. Oh. Merci, Nathalie Pascaud. Sur France Inter. Totalement raison sur l'histoire des bouteilles d'eau. Il faudrait qu'on ait une carafe toute simple avec des verres et puis chacun se sert.
Surtout que c'est vrai, on a une source juste en dessous, à la maison de la radio.
Comment ça, on a une source?
Il y a une source naturelle.
Mais on peut pas. Il y a un robinet quelque part où on peut.
Ouais, bah tu le tournes jusqu'à ce que ça coule.
Sans blaguer.
Il y a une source.
Ah ouais, c'est encore plus ridicule. Ouais. Moi, je fais pareil. Hop.
Non, sinon, sur les marathons, là, j'ai vu qu'ils font, des espèces de boules d'eau. C'est le nouveau truc. Parce que sinon, eux, ils en consomment énormément. Hein, des bouteilles d'eau, pour un mec qui court 42 km, il en boit, je sais pas, il en boit la moitié même. Mais là, ils ont fait des boules d'eau et des boules de jus d'orange. Ouais. Tu mets ça dans ta bouche et c'est voilà.
Mais il y a pas d'emballage. Enfin, l'emballage se fond dans la bouche.
Voilà, d'accord. L'emballage se mange.
Ouais. L'emballage se mange.
Et tu étouffes.
Tu supprimes un marathonien.
Voilà.
Bon, c'est cool.
Revenons à l'amour. À l'amour flou. Ce film, est-ce que vous l'avez fait pour vous ou vous l'avez fait pour vos enfants, pour vos amis? Quel a été aussi le moteur avec?
Là, on a des réponses.
Ah. Ouais.
Hein, on a tout, enfin on a deux réponses. Parce que moi je pensais faire un DVD pour les gosses. En fait, un film de famille, un petit Super 8 comme on faisait à l'ancienne. Quoi. Ouais. Et Romane avait une autre ambition. Elle a vraiment cru qu'on avait un film entre les mains. Et je la remercie parce que t'avais raison. Mais on regarde pas comme ça.
Non.
Mais voilà.
Et au bout du compte, est-ce que vous trouvez que c'est un film que vous pouvez montrer à vos enfants?
Ah bah nos enfants le connaissent par cœur. Ils l'ont vu 15 fois.
C'est vrai.
Ouais. Non, ouais, je crois qu'on a
toutes les scènes donc.
Toutes les scènes. Toutes. Mais Nagui, quel est le problème? En vrai.
La sexualité, ce n'est pas sale.
Ouais.
Oh, ça dépend.
Non, la sexualité.
Non, mais
je vais te le dire.
C'est sale, hein.
La sexualité, ce n'est pas sale. La sexualité de ses parents. Je suis pas sûr que tous les enfants aient envie de voir leurs enfants faire l'amour.
C'est pas
leurs
faux.
Parents, pardon, faire l'amour.
Non, on ne voit pas faire l'amour d'abord dans le film.
Bah si.
Non, à chaque fois c'est soit un échec, soit
c'est suggéré quoi.
Avec objet, ouais. Donc on peut. Ouais. Enfin voilà.
Avec objet. C'est un moins élégant.
Totalement
ça,
mauvaise foi.
On ne voit pas faire l'amour dans le film.
Bah, on ne te voit pas faire. Enfin, je vais prendre un godemiché sous. C'est pour faire quoi?
Un objet, c'est se faire un câlin.
Dans les trois Suisses, c'est un truc pour le visage.
Dans ce modèle-là, non.
Elle ne me voit pas avec son père et tout ça. Enfin, je veux dire, ça reste. On a essayé que le film soit.
Et quand il y a une très bonne amie qui rentre dans votre vie.
Oui, bah alors. Ça, j'ai expliqué à mes enfants qu'il y a des femmes qui vivent avec des femmes, des hommes avec des hommes.
Oui, mais encore une fois, c'est pas le fait que vous fassiez l'amour avec une femme, c'est le fait que.
Oui, c'est peut-être un peu. Mais comment dire.
Est-ce que vous avez envie de voir votre papa faire l'amour?
Ben moi, je l'ai vu dans les films, donc peut-être je suis déformée. Peut-être. Mais comment dire, je crois qu'on a mis le film à un endroit d'humour et les scènes se finissent souvent avec drôlerie et de distance pour que les enfants puissent le voir comme nous étant des personnages. Nous, c'était hyper important quand on écrivait le film que ça se franchisse jamais la limite de l'impudeur, que ça reste fantasque, que ça reste
élégant aussi.
Élégant.
C'est voilà. Pas impudique.
Donc j'ai l'impression que mes enfants, alors ils m'ont pas posé des questions sur tout.
Sur
et ça,
le gaviscon, on leur a expliqué comment prendre du gaviscon, on leur a dit ça se met pas sur le visage.
Ah, c'est
tout. Le gaviscon ne se met pas sur le visage.
Qui est une bonne. Il faut voir le film, voilà.
Non, je pense honnêtement qu'on a mis le truc à la bonne distance pour eux. Ils le voient comme un festival de blagues maintenant. Ils se répètent les répliques. Et puis après, on leur explique. Moi, je leur explique à ma fille, maintenant qu'à 10 ans, je lui dis moi, je suis une femme qui vit plus avec papa, donc j'ai besoin de te rencontrer l'amour.
Ta mère est une chaudasse. Elle a besoin de. Alors que papa, tranquille, balade le chien.
Est-ce qu'on peut avoir la recette des pâtes à la papa?
La pasta à la papa, tout le monde demande.
Bien sûr, mais c'est de la publicité. C'est qu'en réalité, les pastas à papa, c'est de dire que t'as fait des très bonnes pâtes et ils te croient parce que c'est tes enfants. Donc je les rate régulièrement, je fais un peu tout et n'importe quoi. Les pastas à papa, ça peut être tout et n'importe quoi. Des fois, c'est même pas des pâtes.
Mais tu sais quoi, pour dire que mon papa faisait ça aussi.
Mais oui.
Ouais, c'est ça.
Non, on sait bien ce que c'est.
C'est
génial.
C'est un effet d'annonce, en fait. C'est un effet d'annonce.
Exactement.
Ouais. C'est mettre de la gaieté.
La salade spéciale papa. Et le gars fait, c'est quoi? C'est spécial papa.
Alors que moi, je dis, oh merde, j'ai encore raté.
Moi, j'ai compris le principe de la réclame en réalité.
Eh ben, le principe de la réclame, c'est d'applaudir, soi-disant parce qu'on aime, Daniel Morin.
Merci Daniel.
Bonjour Mélanie Laurent, ah, votre film, quelle claque. Oui, je sais, vous n'êtes pas Mélanie Laurent, Roman, mais bon, exactement. Ouais. Voilà, l'émission était annulée, ma chronique était écrite. Eh oh, j'allais pas gâcher. Bon, vous serez gentille de jouer le jeu et d'avoir l'air flatté quand je dirai tout le bien que je pense de votre film, Galveston. Ah, oh, mais ce film, Mélanie, mais quelle claque en pleine gueule, waouh. C'est glauque, c'est sombre, c'est violent, on est mal à l'aise. Ça dérange, it's disturbing, mais on peut pas s'empêcher de jeter un œil voyeur et sordide à la fois. C'est comme un numéro d'enquête exclusive, sans avoir à se taper Bernard de la Villardière. Ah Bernard, si seulement tu pouvais monter dans un avion de chasse plus souvent, ça nous ferait des vacances.
Malgré le pantalon antigé, ma vision se trouble. Mon cerveau est moins irrigué. Je commence à avoir des impressions de voile noir.
Ah, ce serait bien si ça pouvait durer plus longtemps. Enfin bref, votre film, ça procure une sensation de mal-être physique et émotionnel qu'on aime bien ici sur France Inter. Bon, en même temps, j'avais écrit que ça pour Mélanie Laurent. Alors on va parler un peu de vous et de votre film, L'amour flou. Roman Boringer et Philippe Rebaud. Oh, mais votre film, Roman, Philippe, quelle claque dans la gueule! C'est glauque, c'est sombre, c'est violent, on est mal à l'aise, ça dérange, mais on peut pas s'empêcher de jeter un œil voyeur et sordide à la fois. C'est bon comme une émission de Laurent Delahousse, La Mèche en moins. Dommage. Parce que La Mèche à Lolo est d'une brillance remarquable. Je me demande qui est derrière tout ça.
Avec Gloss Machine de Jean-Louis David, la brillance est un style.
Ah, Laurent Delahousse, Jean-Louis David, quelle collaboration magique au service du téléspectateur, toujours. Bref, votre film est un coup de génie. Après visionnage, il fallait absolument que je change de vie. Après avoir passé un coup de fil à mon ami et conseiller en matière matrimoniale, un homme dont je tairai le nom pour des raisons de confidentialité, que je ne trahirai pour rien au monde et que j'ici j'appellerai simplement par ses initiales, DSK. Après ses conseils avisés, j'ai doucement engagé la conversation avec ma femme. Oh, réveille-toi, faut que je te parle! J'ai la révélation, j'ai eu l'épiphanie! Pour être heureux ensemble, ne nous voyons plus! Dans un premier temps, sa réaction m'a quelque peu surpris. Pour ne pas dire agacé, puisqu'elle a réagi en hurlant « Mais ouais, génial, super idée, casse-toi !» Là, je me suis permis de l'interrompre en lui faisant remarquer son manque de tact. Je lui ai demandé d'au moins faire semblant d'être surprise et triste à la fois. Ce mélange aigre-doux ou pris dans le tourbillon de la breaking news conjugale, on ne sait plus où on en est. Bref, elle a joué le jeu et là, j'ai pu lui expliquer tous les bienfaits que je pensais relier à cet éloignement géographique, certes, mais certainement pas sentimental, puisque, et là, je me suis ouvert comme une palourde. Puisque tu le sais, oh toi, mon amour, je n'aime que toi. Si je m'éloigne, c'est pas ta faute à toi. Non, c'est moi. Moi qui ne comprends pas la chance que j'ai d'être avec toi, de jouir d'un amour si pur qui est le tien et par la même occasion d'un compte en banque commun que tu garnis à 90%. Nous restons ensemble, mais c'est pas vrai. Toi, tu restes dans l'appartement, c'est la moindre des choses, vu que c'est le tien, et moi, je vais péniblement prendre la direction d'un petit studio garçonnière en plein cœur de Paris. J'emporte le strict minimum. Le lit, le réfrigérateur, la télé, le jacuzzi. Le canapé, je te le laisse, déjà parce qu'il est taché et tout défoncé. Je sais que tu aimes quand l'assise est molle. Et puis, de mon côté, puisque je compte déménager du côté de la Sorbonne, pour le salon, je vais prendre un canapé clic-clac au cas où j'aurais besoin d'héberger d'urgence une, deux, trois, quatre étudiantes étrangères ou provinciales. Je suis ouvert à la différence. Étudiantes qui seraient en délicatesse de logement. Voilà, chérie. Tout ça, bien sûr, ne remet pas en question notre union et notre vécu aussi magnifique que bouleversant de sentiments. Bien sûr, je passerai te voir régulièrement. Tu sais, je ne peux pas me passer de toi. Et en plus, tu maîtrises tellement mieux que moi les secrets, les astuces et les finesses des programmes de la machine à laver. Je sais, c'est un choc, mais notre amour mérite cette petite révolution que certains qualifieront de séparation, foutage de gueule de ma part, mais qui, je te le dis à la Cahuzac, droit dans les yeux, est en réalité une preuve de mon amour pour toi, que je sais trop étouffant, que je tiens à maintenir en respiration contrôlée, en te donnant l'espace que toi et la passion exigent. Bisous. Alors, notre relation est depuis hier, comment dire, en stand-by, mais j'ai bon espoir que bientôt elle me rende les clés. À demain.
Merci. La bande originale avec Nagui. Pour en revenir au clic-clac de Daniel Morin avec ses quatre étudiantes étrangères, c'est l'un de vos fantasmes, Philippe Rebaud, d'avoir à la Hugues Hefner des femmes nues dans votre appartement.
Mon vrai truc, c'est d'être Hugues Hefner. C'est-à-dire, pendant longtemps, enfin, quand on est adolescent, dans mon adolescence à moi, être Hugues Hefner, c'était quand même un rêve de cinglé, quoi.
Le patron de Playboy, qui avait toujours de
Playboy,
des
top vivait dans une maison avec quatre filles faites exactement pareil.
Refaites exactement pareil.
Là, ces derniers temps, je me disais, il vivait à 80 piges en en peignoir avec quatre filles blondes. Je sais même pas comment ils pouvaient dire les prénoms parce qu'elles se ressemblaient tellement. Mais après, voilà, c'est une espèce de fantasme, donc j'ai voulu le mettre dans le film. En réalité, ça n'est pas... Enfin, de toute façon, j'ai pas une libido suffisante pour vivre avec quatre filles. Déjà une, c'est compliqué.
Vous avez le sens de la réclame, normalement, là, c'est pas gagné,
ouais,
quoi. C'est pas vendeur,
c'est
là.
C'est une contre-réclame, mais enfin, je sais. J'ai plus le sens de la réclame
stratégie.
Que tu le penses.
En tout cas, la veste est de la même couleur que le peignoir.
Des promesses. Ouais,
exactement, ouais.
Des promesses,
ouais. Roman, des promesses d'échec.
Le film, donc, sort aujourd'hui, L'amour flou, je le rappelle, mais jusqu'au 2 décembre, vous êtes...
Ah oui.
Dans l'interprétation de L'Occupation.
Oui.
Texte magnifique, Bernie Arnault. Sublime.
C'est au théâtre de l'œuvre, ouais. Pièce que vous avez déjà joué à La Rochelle, pas à Limoges.
Non, on espère y aller l'année prochaine.
Mais et parmi vos projets, Philippe, il y a Moi, Maman, Ma Chère et moi.
Moi, Maman, Ma Mère et Moi.
Moi, Maman, non, bah oui, bah, c'est ça.
Ma Mère et Moi,
c'est ça.
Ouais, moi aussi, j'ai du mal à retenir ce titre.
Christophe oui, Lemann.
Christophe Lemann, ouais.
Vous y faites quoi?
Ben, j'y fais un fils. Enfin, on est. En fait, notre mère vient de décéder et du coup, c'est une famille qui se déchire. Enfin, de frères et sœurs. Donc, moi, je suis l'aîné, évidemment, parce que je suis quand même assez vieux.
Et Vernon Subutex aussi, vous êtes dedans?
Tout à fait.
Tout à fait.
Je suis dans Vernon Subutex, mais je ne sais pas quand ça va être projeté.
Sur Canal, en tout cas.
Sur Canal, voilà. Ça passera sur Canal.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oh là oui, et désolé pour Philippe Robot. J'ai eu votre père à la pause au téléphone. Il a trouvé Roman super dans l'émission, mais il m'a dit que vous avez trouvé en dessous. Non, en vrai, vous avez trouvé à chier. Ah, la famille. Désolé pour tous les pauvres qui nous écoutent et qui n'ont pas de grands paves en banlieue. Honte à vous, les prolos. Alors, j'ai discuté avec Nagui à la pause, il est prêt à en acheter quelques-uns à distribuer. Leïla, quant à elle, elle ne veut pas de vous. Elle préfère que vous alliez sur RMC, sur Europe 1, enfin sur les autres radios. Désolé pour tous les chauves à moustache qui se sont sentis moqués, insultés et dégueulassés par les bassesses de Nagui. Nagui qui me confie à la pause qu'il préférait largement les moustaches courtes, bien taillées au milieu, avec une petite mèche au niveau des cheveux. Un truc très bavière, quoi. Ah là là, il a de ses modèles, lui.
Merci et bravo, Roman Bourringer, Philippe Robot.
Merci à vous.
Traverser la rue, vous ne trouverez pas de boulot, mais vous trouverez un film, un bon film.
C'est au cinéma depuis aujourd'hui, non? C'est le sens de la réclame. Hein,
ah oui, mais c'est Philippe Rebaud.
Il y a déjà une séance de passer.
Il y a déjà une séance, dépêchez-vous.
Demain, nous recevrons Bérénice Béjot et Stéphane De Groot. Pour l'instant, ce sont les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Nagui, bonjour les amis. Tu parlais de réclame, bah oui, il y en a deux minutes là qui arrivent.
Et
Philippe Rebaud, à la voix de Cadmérade, quand je vous ai entendu au début de l'émission, je dis c'est pas possible, c'est Cadmérade.
Ah bon?
C'est vrai, je suis Cadmérade.
Ah, d'accord, je suis pas Philippe Robot, n'existe pas.
Il y a quelque chose, c'est vrai.
Je me disais.
Dites Camoulox, Philippe, pour moi.
Camoulox.
C'est exactement ça.
C'est exactement.
C'est Jean-Michel à peu près, là.
Bon, salut, les amis.